Vous écoutez France Inter, il est bientôt 14h05, l'heure de CO2. Mon amour, avec vous, des nuits chez Sous, et bien sûr, vous êtes Charlie également.
Ah, totalement, et on va retrouver aussi les voix de Bernard Maris et de Tignous. Merci, Dominique Delarroy.
Les mines antipersonnelles créent des emplois, hein. La destruction des forêts, ça crée des emplois.
Les feux de cheminée aussi.
Voilà, la destruction des ressources marines, ça crée des emplois. La guerre, ça crée des emplois. Les pesticides, ça crée des emplois. Oui. Ça crée des emplois. Personnellement, moi, ça me bassine. Quand j'entends « ça crée des emplois », je sors ma princesse de Clèves ou mon trio de Schubert ou ce que vous voulez, que le dimanche, les Français dorment.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, avec aujourd'hui Alain Gadan et Benjamin de la Gâtinais à la technique, et assisté de Jérôme Boulet, sans oublier Albert Houck, c'est Christophe Imbert qui réalise cette émission. Ils ont voulu couper les ailes à un canard, des feutres face au Kalachnikov. C'est vrai que deux coups de crayon sont souvent plus efficaces que de longs discours. Vos assassins l'ont parfaitement compris. Et nous, eh ben nous on est secs, ou plutôt mouillés de larmes. Charlie, c'est l'anagramme de chialer. Ouais. Vont-ils nous assécher? Ben non. C'est l'eau de nos vies qui doit réhydrater la démocratie, la République, la liberté de penser, de caricaturer autrement, que l'on doit protéger et féconder à tout prix. L'humour dans nos vies, c'est aussi dire autrement la vie. Un rire salutaire, un rire soupape, un rire sur le pape qui stimule la pensée. Hannah Arendt insistait sur ce point, penser est dangereux, mais ne pas penser est plus dangereux encore. Et il reste quand même que sur le marché de la Kalachnikov à 100 balles, eh ben, cette Kalachnikov se trouve plus facilement que l'humour et leur talent formidable. Alors on attaque le fronton républicain et un média qui est l'autre nom de la démocratie, sève absolue de l'État, de droit et de la circulation de pensée. Entre un gouvernement sans presse et une presse sans gouvernement, l'Américain Jefferson choisissait la presse sans gouvernement, nous rappelait Cynthia Fleury l'autre soir chez Kathleen Evin. Ils sont morts assassinés parce qu'ils étaient libres. Aucun pape, imam, athée, dieu, femme, homme politique, aucune ligne bleue, marine des Vosges, aucun cul triste de Zemmour, de Houellebecq ne pouvait les arrêter. Sur leur fronton à eux étaient gravés libertaire, égalité, fraternité, laïcité. Et dans la vie, c'est vrai qu'ils étaient gentils. Ils étaient doux, comme des agneaux qui mordaient les loups. Ils sont morts assassinés parce qu'ils étaient libres. Et nous, on doit rester debout, ferme, humain, et nommer les choses, remonter aussi aux causes. Alors on va être digne à la hauteur, c'est-à-dire vivant, drôle, bête, généreux, amoureux à tort et à travers de la vie, des femmes, des hommes, d'une fleur, iconoclaste, sans aucun tunnel idéologique qui au bout ne voit jamais la lumière. Et comme les petits soldats de l'an 2 dépenaillés, eh bien on va se lever. On l'a déjà fait, on continue, demain, aujourd'hui, partout, on va se lever en masse. Bien sûr, soyons Charlie, qui a tant relayé le message écologique de la vie face aux destructeurs méthodiques de la nature. À CO2, mon amour, nous n'oublions pas combien l'hebdo, de moins en moins acheté malheureusement, s'est investi dans les thèmes écologiques. Bien avant qu'elles ne deviennent, que ces thèmes deviennent à la fois les priorités d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Alors les journalistes se sont improvisés lanceurs d'alerte, hein, souvent, alors que le terme n'était pas encore à la mode. Ils ont notamment ouvert les yeux de bien des gens sur les dangers du nucléaire, les excès du consumérisme. Merci à Fabrice Nicolino, je vous redonnerai des nouvelles tout à l'heure, blessé aux jambes. Et cher Fabrice, on t'aidera toi aussi à te relever. Achetez Charlie, encadrez-le pour dire à ces salopards que ce qu'ils ont voulu tuer ne le sera pas. De fragiles valeurs, oui, qui s'appellent la liberté et la laïcité. Et dans ces moments saturés de violence et de fureur humaine, de commentaires comme une avalanche de poudreuse, on prend conscience de l'importance infinie du babil et des acrobaties d'une mésange bleue accrochée au bout d'une branche givrée, vous savez, décortiquant patiemment les chatons d'un bouleau, comme une boule de Noël qui éclaire nos visages. Et nous resterons sur la presque phrase de Jacques Brel, quand on n'a que l'humour à s'offrir en partage. Aussi, voyez-vous, s'attaquer à un journal et finir canardé dans une imprimerie, eh ben, ces deux truands sans humanité doivent peut-être penser que les lettres et les mots se sont vengés.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux sur France Inter.
Oncle Bernard, homme de Toulouse mais originaire de l'Ariège. Eh bien, Bernard Maris était issu d'une terre cathare, on le sait, devenu naturellement hérétique hein, pour sa pensée un peu pas tellement libérale. Voilà, Bernard refusait le cloisonnement des disciplines, on le sait. Il a tenté de se convertir à l'ultralibéralisme économique à l'école de Chicago de Friedman, mais avec un insuccès, mais absolument total. C'était pas du tout son genre de beauté. Et en janvier 2012, ici à France Inter, bah, je lui demandais quel lien il faisait entre l'économie et l'écologie.
C'est les ennemis. Hein. Je crois que l'écologie, bien qu'il y ait la même racine,
oui.
Hein, oikos, la maison, mais l'économie détruit la maison et l'écologie essaie de sauver la maison, cette maison qui brûle, disait le président. Et malheureusement, les économistes, même si aujourd'hui ils se préoccupent beaucoup d'économie de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils essaient de calculer un petit peu les coûts et les avantages de la destruction de la nature. Les économistes, historiquement, ne se sont jamais intéressés à la protection de la nature. Sauf quelques très grands noms, Nicolas Georgescu-Roegen ou Keynes lui-même, et des Français comme René Passé et d'autres. Mais les économistes ont toujours considéré que c'était la croissance quoi, qui était le moteur de la vie sociale, qu'il fallait créer des emplois et que donc le bouleversement de la nature faisait partie de la vie humaine. Et un grand économiste qui s'appelle Jean-Baptiste Say disait « les ressources naturelles sont infinies, ne vous occupez pas de ça ». Et c'est vrai que lorsqu'on discute avec un économiste, il dit « bon, mais vous êtes un pessimiste, un malthusien, moi je suis un optimiste, je suis sûr que toujours les gains de productivité permettront de croître à l'infini, de faire monter les arbres jusqu'au ciel ». Sauf qu'il y a des choses que l'écologie prend en compte, que ce qu'on appelle les irréversibilités, malheureusement, et que l'économie, conceptuellement, est incapable de prendre en compte. L'économie pense que tout revient à l'équilibre, qu'elle est dans une physique newtonienne, hein, c'est-à-dire qu'elle pense que finalement, il n'y a pas de flèche du temps, qu'on revient à l'équilibre, c'est la loi de l'offre et de la demande, ça monte, ça baisse. Il n'y a pas d'irréversibilité, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de flèche du temps. Or, nous, ceux qui se préoccupent un petit peu d'écologie, sont bien conscients que bien entendu, il y a une flèche de temps, il y a des destructions irréversibles et ils sont bien conscients que, alors que l'économie, c'est la science de l'utilité, je dirais que l'écologie, c'est plutôt la connaissance de la beauté. Je mets d'un côté la science de l'utilité et de l'autre, je dirais l'écologie, celui qui se préoccupe d'écologie, c'est quelqu'un qui a un regard poétique. Ouais. Je prends un tout petit exemple. Lorsque j'ai vu pour la première fois les images de la grotte Chauvet, j'ai eu un bonheur extraordinaire. Et je me suis dit, ces homo sapiens, qui étaient comme nous, quoi, hein, qui étaient des sapiens. Je ne sais pas pourquoi on dit sapiens, d'ailleurs, peut-être Pierre-Henri Gouillon nous dira tout à l'heure pourquoi on dit ça.
Mais enfin, sapiens, une fois, c'est peut-être d'être sage, une fois, ce n'est pas suffisant. Donc on a dit sapiens. Au moins deux fois sage.
Et j'imaginais ces hommes qui ont représenté la beauté dans laquelle ils vivaient et la profusion. C'est un mot qui nous est interdit à nous, parce que nous sommes dans la rareté, dans la parcimonie, dans le calcul égoïste, dans les terres qui disparaissent. Et ça, c'est très, très économiste, hein, cette parcimonie. Donc cette profusion et cette beauté, ça, je crois que c'est un peu le regard de l'écologie. Si j'avais un souhait à faire, ce serait d'autoriser les humains à regarder les étoiles la nuit. Ah, ils auraient un peu des moments de profusion.
Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que l'on se bagarre et que vous avez une association aussi en France qui donc nous permet d'avoir des ciels étoilés.
Voilà.
Et d'éviter.
C'est un très beau combat.
Mais bien sûr.
Et j'envie les Corses, j'envie nos concitoyens de Corse ou du Lot. Je crois que ce sont les derniers points.
Il y a un triangle
France,
dans le Lot. Exactement.
Petit triangle dans le Lot où on peut regarder le ciel.
Vous buvez du petit lait là, effectivement. On a un exemple là fabuleux de ce qui se passe aujourd'hui à peu près partout. Mais.
Et ça, c'est cette histoire de concurrence libre et non faussée, c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment un dogme. C'est vraiment c'est la virginité de la Vierge, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, dont les gens sont absolument convaincus et qui n'a aucune réalité, même chez les économistes et même chez les économistes orthodoxes. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu depuis une vingtaine d'années une évolution dans la pensée économique qui dit la concurrence libre et non faussée ne donne pas les bonnes solutions. En général, elle donne toujours les solutions les pires. Par exemple, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. C'est dans un marché de voitures d'occasion, ce sont les voitures d'occasion les plus mauvaises qui apparaissent et c'est les bonnes qui disparaissent. Bon, on le voit toujours, tous les jours sur les marchés financiers, quand il y a de la spéculation, c'est toujours le mauvais qui sort. On l'a vu au moment des subprimes. La spéculation a fait que ce sont les mauvais crédits qui sont sortis et les bons crédits ont disparu. Donc cette concurrence libre et non faussée, c'est un dogme pur dont se sont emparés les politiques. Au nom du dire, il faut donner des coups de pied dans la fourmilière, ça stimule les gens, parce que là, si on est en compétition tous, on va s'arracher la parole, chacun va prendre le micro. Pas du tout. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui coordonne, un coopérateur, qui organise, etc. et qui fait qu'il y a une solidarité et une coopération qui donne une solution bien meilleure que la concurrence libre et non faussée. Donc, cette histoire de concurrence libre et non faussée, qui est le dogme de la Commission européenne, nous fait faire les pires bêtises.
Et on va faire un petit tour dans quelques instants dans le département de l'Ariège. Ce sont vos origines. Vous êtes né à Toulouse, mais ce sont vos origines. Toute la famille, tout le berceau des Maris est de là-bas. Oui, non, parce que dans ce département de l'Ariège, vous avez des gens très connus. Vous avez les Magdaléniens. Vous avez Gaston Phébus, vous avez Fabien Barthès et vous avez Bernard Maris.
Oui.
C'est pas mal.
Qui va régulièrement à Axeter en Ariège, au pied de l'Andouan.
Oui, alors dites-nous un peu, parce que je sais aussi qu'on va dire que cet amour de la nature que vous avez eu, je pense que vous l'avez eu en partie dans ce département de l'Ariège.
Ah, c'est un département, il ne faut pas trop en parler parce que les gens vont débarquer là-bas.
Mais
c'est
un
département qui est absolument, il y a de la marge, oui, mais c'est très loin d'abord. Mais c'est un département absolument merveilleux, oui. Qui n'a pas été trop gâché encore par les stations de ski et tous ces trucs qui abîment la montagne d'une façon absolument désespérante. Ce sont des gens assez rugueux, il faut dire.
Hein. Oui.
Bon, et qui n'aiment pas trop les étrangers. Hein. Les Toulousains sont des étrangers, bon, c'est sûr. C'est des gens
et pourtant, c'est
et puis qu'il y a une histoire très très forte avec justement bon, la grotte de Niaud et toutes les grottes ariégeoises. Et puis l'histoire des cathares et les châteaux cathares qui sont plutôt à la frontière de l'Ariège, mais c'est à côté, à l'Aude, dans l'Aude, hein, c'est à côté le château de Puyverne, qui sont des châteaux formidables, le château de Lordate à côté d'Axeter.
Mais ça forge un esprit de résistance, hein, quand même.
Ce sont des résistants, oui. Ils ont d'ailleurs joué un très grand rôle pendant l'occupation. Oui. Ils ont été des passeurs, ils ont été très très courageux. Ce sont des résistants, ils sont très attachés à leur territoire. Ils n'aiment pas trop les ours, hein, là-bas, il faut dire.
Ah non,
que...
c'est bien.
L'ours n'est pas tellement le bienvenu à l'arrière.
Pas du tout. Parler de l'ours à l'éleveur, là-bas, ils ont le fusil tout de suite.
Oui, bien sûr. Oui. Ça ne leur plaît pas. Bon, c'est un pays... Mais on voit les étoiles. Enfin, encore qu'il faut sortir maintenant d'Axeter, parce qu'ils mettent des trucs un petit peu partout. Mais c'est vrai qu'on a des ciels, peut-être pas aussi beaux que les ciels de Normandie, mais on a des ciels très, 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 très beaux. C'est un département merveilleux. Il n'y a pas d'autoroute encore, je crois.
Non, non.
C'est l'un des derniers départements sans autoroute.
Voilà. C'est d'ailleurs aussi, non pas curieux, mais c'est une entité, on va dire, administrative, l'Ariège, parce que culturellement, vous avez, on va dire, deux parties assez distinctes.
Absolument. Oui, il y a le fameux col, allez-y.
Avec le col de Port, oui, qui est vraiment la ceinture. Vous avez donc, d'un côté, une partie qui est tournée vers la Guyenne, donc, on va dire vers l'Aquitaine, et puis donc, c'est le pays de Couserans. Et puis l'autre côté, c'est le pays de Foix, qui lui est beaucoup plus tourné, déjà méditerranéen, avec vraiment une césure, mais aussi bien physique que culturelle.
Bien sûr.
Redescend donc, chez vous, sur Foix, sur Aix-les-Thermes.
On passe le col du Choulard. On descend vers Quirigut et on a la mer. Quoi. On voit d'ailleurs la mer depuis le col du Choulard. C'est pas vrai, hein, je dis ça.
On retrouve Bernard Maris et puis il y aura aussi Tignous dans cette émission dans quelques instants. Vous êtes bien sur France Inter.
Courir à perdre haleine, sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse. Les dilemmes, dis-moi encore que tu m'aimes. Des amours, des questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Et si l'on rejouait toutes les scènes? Dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes. Les pluies vont être diluviennes. Sens-tu le parfum que le vent ramène?
dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique quand se déroule le générique? Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi encore que tu m'aimes. La vie reste fragile tout de même, et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes.
Dis-moi que tu m'aimes de l'amour et de la joie qui ne peut pas faire de mal, avec Gaëtan Roussel, donc un ancien de Louise Attaque. Alors Bernard Maris avait quand même quelques points qu'il n'aimait pas véritablement. En voici un autre.
Bon, je suis navré par exemple par le classement de la corrida au patrimoine immatériel. Bon, ça pour moi c'est quelque chose d'absolument navrant.
Pierre-Henri Gouillon.
Je ne suis pas vraiment pour, mais entre la corrida et, et l'élevage industriel des bovins, il n'y a pas photo pour moi.
Voilà, d'accord. Mais ce dont je voulais parler, ce dont je voulais qu'on parle, c'était de l'élevage. Et je pense que je suis optimiste. Je pense que les mœurs évoluent vers le bien. Oui. C'est-à-dire que on ne traite pas les animaux demain comme on les a traités dans le passé. Je pense que ces massacres, on doit aux Romains d'avoir dépeuplé entièrement l'Europe et l'Afrique des bêtes magnifiques qu'elles contenaient pour les massacrer pour le plaisir des yeux, et c'est absolument abominable. Et je pense que nous avons un devoir moral vis-à-vis des animaux, et que nous montrerons de l'humanité, et de plus en plus d'humanité, lorsque nous serons attentifs aux animaux. Il est inadmissible de faire souffrir les animaux, et des animaux extrêmement intelligents, comme les poules, par exemple, qui sont des animaux de compagnie merveilleux. Je ne sais pas si vous... On peut adopter des poules, et vous verrez l'affection que vous porteront ces volatiles, qui sont d'un humour presque aussi grand que les chats. Donc je pense que l'élevage, c'est quelque chose qui doit être absolument réglementé, et on ne peut pas faire souffrir les animaux. Pour moi, c'est quelque chose d'évident.
Voilà, Bernard Maris, donc, était venu dans cette émission, c'était en 2012, et en 2010, au Salon du Livre, j'ai eu le plaisir de recevoir Tignus. On ne fait pas le tri des larmes, on pense à tous, ceux qui n'étaient pas connus non plus, ceux qui sont morts. On le sait, c'est une horreur, donc on réagit comme on peut, mais on réagit, et ça c'est extrêmement important. Tignus, si vous voulez, donc c'était Bernard, Tignus était aussi un type absolument délicieux. Moi je pense beaucoup à Chloé, à Sarah Lou, à Solal, et Tignus, ça signifie en occitan la teigne. Voilà, hein. Et en même temps, ce type-là, je vous dis, était un agneau, c'était un gars charmant. Et alors là, sous les yeux, j'ai Panda dans la brume. Panda dans la brume. Alors, il faut imaginer, vous avez la couverture. Et en écho aux événements de Tiananmen, eh bien, vous voyez un panda devant un char, arracheur de bambou, de forêt, qui est en train donc de résister. Et là aussi, eh bien, le panda fait partie de tout cet écosystème mondial. Et c'est donc tout un ensemble, cher Tignus.
Je pense que c'est un tout, donc là c'est pareil, c'est-à-dire que si le panda disparaît, ça, alors évidemment les humains sont un peu plus que 1600, ça c'est clair,
oui.
Et notamment en Chine, mais c'est le même phénomène, c'est-à-dire que pourquoi on n'arrivait pas à se faire disparaître nous-mêmes, tout ce qui peut toucher le panda peut toucher à un moment ou à un autre l'humain, l'humain et les autres espèces, puisque c'est pareil, j'ai encore lu un article il n'y a pas longtemps dans Charlie sur les tigres. Les tigres, ils sont 6000, je sais pas, enfin c'est ridicule. Sauf que en plus ils sont chassés, c'est-à-dire qu'encore le panda est un peu protégé parce que c'est le trésor national chinois, donc bon, on les élève, etc. Mais le tigre, lui, c'est encore une fois, c'est un nuisible lui aussi, donc l'éliminer, ça pose de problèmes à personne.
Lui, il a de la chance parce qu'il y a un affectif hein, quand même autour du panda.
Oui, le panda,
ce qui n'est pas le cas de l'amibe, exemple, ou de
du
lombric.
Dans le livre, à un moment, je dis, c'est bizarre qu'on veuille faire absolument disparaître le panda. Et en fait, quand on réfléchit, il plaît aux femmes et il plaît aux enfants. Donc l'homme veut le voir disparaître.
Et voilà, c'est logique.
Voilà, c'est toujours la même histoire. C'est un ennemi potentiel.
Alors, il y a aussi le panda qui va voir le Dalai Lama et qui lui dit « Comment devons-nous pour ne pas disparaître ?» Et le Dalai Lama lui répond « Il faut vous réincarner en panda !» Voilà, donc c'est QFD. Alors, il y a aussi un panda qui écrit en France. Alors, il est très content, le panda, parce que donc il reçoit une lettre, et il se dit « Ah bah c'est bien, ça doit être une réponse à ma demande de droit d'asile !» Puis il dit « Ah, les salauds !» Sur la lettre, il y a écrit « Monsieur, la bambouseraie d'Anduze, pardon, ne peut accueillir toute la misère du monde !» Voilà, donc ça donne un peu le ton. Oui, je vous en prie, Frédéric Isaac.
En tant qu'éditeur, je voudrais quand même saluer l'effort de Monsieur Tinius, qui, pour économiser des encres de couleur, a choisi des animaux en noir et blanc et a pu faire un album comme ça.
Et voilà,
en noir et blanc.
Et voilà.
Bravo.
Absolument, effectivement, c'est bien vu. Je parlais de documentation. Vous nous rappelez aussi le rôle des bambous. Et en fait, ils ne se nourrissent pas, ils ne grandissent pas tous à la même vitesse, les bambous.
Non, ils ne grandissent pas tous à la même vitesse. Parce que ce qui est intéressant, c'est que bon. Ça, c'est peut-être la déformation journalistique, c'est qu'à chaque fois que j'apprends plein de choses. J'apprends plein de choses. Et alors, notamment, une chose que j'ignorais totalement, c'est que les bambous d'une même espèce, au bout d'un certain temps, disparaissent, ils fleurissent et disparaissent tous en même temps, mais à travers le monde. C'est-à-dire la même espèce fleurit. On ne sait pas, comment ils se préviennent, mais ils fleurissent au même moment et ils meurent.
Ça, c'est une horloge biologique absolument incroyable.
Ça, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est parce que, enfin bon. Et donc, effectivement, si on leur déboise, enfin, si on leur débambouse une même espèce comme ça, le panda, il lui reste plus qu'à mourir. Donc, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est. En plus, moi, j'ai appris qu'en fait, à l'origine, ils vivaient dans les vallées. Mais à force que l'agriculture les chasse, eh bien maintenant ils sont dans les montagnes. Mais
je vous rassure, les ours c'était pareil, hein. Il y en avait dans toute la France aussi. Bah, les loups c'était la même chose,
voilà.
Et
oui,
le lynx également. Donc ils remontent en altitude. Hein, donc. Et alors donc vous avez aussi un militant du WWF qui est face à un homme d'affaires. Et il lui dit, il faut protéger les pandas. Bon, le gars avec son gros cigare dit, pourquoi? Et le panda souffle à l'oreille du militant. Bah, écoutez, ils peuvent travailler pour moins cher qu'un Chinois. Et le gars dit, ok, c'est cool. Voilà. Non, mais on est sans arrêt sur ces contradictions incroyables. Donc, vous avez dit, ce sujet-là, il est pour moi, celui des pandas.
C'est formidable. Il y a tout. Il y a les bouddhistes que j'affectionne particulièrement. Il y a les délocalisations qui se situent là. Il y a un gouvernement qui n'est pas des plus démocratiques. Il y a tout. Et ce panda qui est le trésor national et qui, du coup, est protégé. Et il est protégé, mais il est quand même mis dans des cages. Quand il le protège, il le met dans des cages. Si le WWF, j'imagine, il y a d'autres associations comme ça qui ne soutenaient pas les recherches, j'imagine que ça se passerait dans des conditions un peu particulières. Enfin bon, c'est très rigolo que ce soit vraiment là que tout ça se situe.
Tinius, donc c'était au salon du livre, c'était en 2010, avec cet ouvrage « Panda dans la brume », toujours une très belle actualité. Des nouvelles de Fabrice Nicolino, qui est venu évidemment de très nombreuses fois dans cette émission. Donc Fabrice, lui, a été touché aux jambes. Il a eu une opération très lourde. Il s'en sort. Ce sera long, bien évidemment. Ce sera long. Il est encore choqué, il ne réalise pas totalement ce qui se passe et en même temps, il a toute sa tête. Donc il y aura peut-être, j'ai bien peut-être simplement un de ses textes qu'il avait écrit avant, mais qui semble assez d'actualité, peut-être dans le numéro que nous achèterons à partir de mercredi. Et voilà. Alors peut-être aussi, si vous souhaitez lui écrire, vous avez le site de Reporter d'un côté, puis vous avez aussi donc notre site à nous de CO2 Mon Amour, parce qu'on lui transmettra. Donc vous le savez, donc franceinter.fr. Et puis après, donc CO2 Mon Amour, vous en avez l'habitude aussi pour dialoguer les uns les autres, déposer vos messages, etc. Réagir. J'ai dû vous laisser aussi le texte de cette semaine dessus. Et alors, on va maintenant continuer avec la vie. Bien sûr qu'on va continuer avec cette vie-là, parce qu'ils nous le reprocheraient terriblement tous de ne pas continuer dans ce sens. Et moi, je vous propose maintenant de sortir avant d'aller marcher demain pour les Parisiens. Et on va sortir dans un très joli parc naturel régional qui est celui des marais du Cotentin et du Bessin dans le département de la Manche.
Ah oui, il est mi-terrien, mi-aquatique. Là, il est plutôt aquatique. On est en hiver. Et les marais sont blancs, comme on dit par ici.
Ils blanchissent, c'est
ça ? Ils blanchissent. Le marais blanchit, c'est-à-dire qu'il se remplit d'eau. Il va rester plein d'eau comme ça pendant 3 mois, 4 mois. Et la terre se gorge d'eau d'abord, bien sûr, et de tas de substances. Et c'est ce qui donne au printemps une herbe absolument exceptionnelle, extraordinaire. Voilà, c'est une métamorphose annuelle à laquelle on ne s'habitue jamais tout à fait, parce que quand l'automne arrive, on garde dans l'œil ces paysages aussi terriens que possible, encore une fois, des prairies à perte de vue, des centaines de vaches, bon. Puis alors, ce qui est très traître, c'est que ces prairies sont séparées par des fossés d'évacuation. Oui. Et alors, vous avancez là, avec vos bottes, il y a 20, 25... 30 cm d'eau et d'un seul coup vous tombez dans un fossé qui lui fait 1,50 m de profondeur. Hein. Ouais. Donc il faut quand même être prudent, surtout quand cette saison l'eau est fraîche.
La mer n'est pas loin, en fait, on la sent, on la devine. Vous avez un panneau Utah Beach qui est juste derrière. Donc nous sommes dans ces marais du Cotentin et du Bessin, dans le département de la Manche. Là où la presqu'île, vous savez, du Cotentin forme un angle droit avec le littoral du Bessin. Alors c'est un coin qui est tout simple et des paysans au possible. On n'est pas loin d'Isigny, hein, on est dans une zone donc, d'appellation donc, d'origine contrôlée. C'est un monde de brume, c'est un monde d'eau, de lumière, d'imaginaire. Et au-delà, je dirais, de la valeur biologique de ces 25 000 hectares de marais que défendaient aussi... Nos amis de Charlie qui défendaient la nature, et bien ce lieu est important parce qu'il fournit le foin, la litière, le pâturage pour les bêtes, et puis donc cette eau, cette lumière, et du rêve pour les hommes. Alors ça tombe bien parce que c'est aussi du pain pour les écrivains. Gilles Perrault, que vous avez entendu, auteur du Pullover rouge, de notre ami le roi, des gens d'ici, il vit à côté, lui, il vit à Sainte-Marie-du-Mont. Ça tombe bien, on lui a demandé parce que c'est un guide assez épatant donc dans ce parc naturel régional du Cotentin et du Bessin dans la Manche avec Gilles Perrault. Alors là, on est en train de sonder le terrain parce qu'on a quand même de la flotte presque, pas encore jusqu'aux genoux, mais pas loin, hein.
Ah oui.
Bon, on va peut-être pas s'aventurer par là, Gilles Perrault. Voilà, on va ressortir. Alors là, on voit cette ligne de chemin de fer, hein, c'est-à-dire la ligne qui va de Caen jusqu'à Cherbourg, qui surnage, hein, elle est sur une digue.
Ah, elle est sur une digue, digue, et il faut même faire attention. Enfin, le train roule lentement cette saison, parce que le remblai est une éponge, il est gorgé d'eau, hein, ça c'est une évidence. Ah oui, en train c'est très impressionnant de traverser toute cette région des marais. Vous avez l'impression que le train est un bateau en quelque sorte, vous ne voyez que de l'eau à gauche et à droite.
Alors Gilles Perrault, là nous sommes ici vraiment dans un parc naturel régional, celui du Cotentin et du Bessin. Il a un rôle quand même extrêmement positif, c'est-à-dire c'est un peu l'occasion de rappeler sur le terrain ce que l'on fait ici.
Un parc naturel, il préserve d'abord. Il a un rôle écologique, il s'agit de préserver précisément les espèces animales. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes sur la route des oiseaux migrateurs, c'est donc très important. Et puis de mise en valeur aussi de ce patrimoine naturel. Mmh. Là, par exemple, pour les marais du Cotentin, des tas d'initiatives ont été prises pour créer des postes d'observation d'oiseaux, pour montrer aux touristes toutes les richesses naturelles de ces marais. Donc il y a création d'emplois aussi. Hein. Il s'agit aussi de faire que ces régions de marais qui étaient considérées comme déshéritées, je ne dirais pas mal famées, mais enfin habitées par une population rustre. Bon.
C'est-à-dire qu'on s'approprie le terrain, on s'approprie ce parc, et en vous écoutant, on se rend compte qu'on va même jusqu'à redonner une fierté, une identité à ces gens.
Ah oui, oui. Ah ben, là... La métamorphose aussi est impressionnante. Vivre au marais, c'était pas considéré comme très exaltant. Ouais. Et on avait une très mauvaise image, il faut le dire, des gens du marais. Bon, on parle des crétins des Alpes. Ouais. On parlait autrefois des crétins des Alpes. Eh bien, il y avait les crétins des marais. Et depuis la création de ce parc naturel régional, l'image a complètement changé. C'est-à-dire que de négative et de très négative, elle est devenue positive.
Et donc, cette herbe-là va reverdir dans quelques mois, je crois, d'un seul coup. Quoi. On a coutume de dire que si on perd un bâton, le lendemain, on ne le retrouve pas tellement l'herbe a poussé.
Absolument, oui, oui. La terre est tellement riche, la terre est tellement grasse. On dit aussi que si un enfant plante sa règle d'école, là, ouais. dans une prairie, à ce moment-là, le lendemain matin, il y a des bourgeons, mais, à condition que la règle soit en bois, bien sûr. Bon, mais c'est une richesse extraordinaire. C'est vraiment un terrain fait pour l'herbe et c'est une explosion de verdure. Il est vrai que le printemps ici a une force inouïe, vraiment.
Bon, il y a votre chien qui tremble un petit peu.
Même au mois de juin, il tremble. Ouais. Ouais. Les gens d'ici, les éleveurs, faut voir cette passion qu'ils avaient pour l'élevage, pour arriver à affiner les races, à produire des animaux qui vraiment présentaient le maximum de qualité. Et de génération en génération...
Il y a une coupure quand même. Hein, là.
Ah ben oui, il y a une coupure. Oui. Maintenant, c'est fini. C'est l'élevage industriel. Hein. Alors, dans des étables immenses où vous avez une centaine de bêtes, qui sont dans des enclos en fer très serrés, très étroits, il ne faut pas que la vache bouge, car dès qu'elle bouge, elle perd du poids. Donc on perd du temps, on perd de l'argent. Vous savez, l'instituteur de mon village là, a été très surpris. Il a voulu emmener les enfants de sa classe voir un élevage de ce genre. C'était nouveau dans le pays. Et l'éleveur qui était un ami lui a dit « Écoute, je veux bien le faire ». Mais parce que c'est toi et que je te connais. Alors, l'Institut, qu'est-ce qui se passe
caché,
avec tes 40 gosses? Ça va créer du mouvement chez les vaches. Ah, oui. Je vais perdre 20 kilos. Je m'en étrangle d'indignation. Mais c'est vrai, c'est une indignation parce que je vois des gens malheureux autour de moi, des gens inquiets, des gens parfois angoissés et des gens qui se disent « on nous force à faire un boulot dégueulasse ».
On a laissé Gilles Perrault non pas au milieu du marais, mais là je me tourne vers Jean-Baptiste Wetton, qui est un des responsables environnement dans ce parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin. Bon, puis là évidemment c'est toujours le même paysage, mais là il y a carrément marqué le port, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'en plein hiver l'eau monte jusque-là, et là nous sommes en train de marcher sur une digue en fait.
Donc on est en plein paysage de marais blancs, comme on dit ici. Hein.
Ce sont des petites mers intérieures.
Oui, une petite mer qui va faire quasiment 15 000 hectares, si on peut donner un chiffre. Ah, oui. Donc c'est déjà un espace relativement grand. Là, c'est un phénomène naturel. Le marais se remplit l'hiver. Les habitations et les villages ont été construits en bordure de marais, mais suffisamment, je dirais, haut pour ne pas être atteintes par les eaux. Et je dirais que tout se passe bien.
Pour des gens qui ne connaissent absolument pas Jean-Baptiste Souetton, ce lieu, qu'est-ce qui frappe tout d'abord quand on arrive ici? Parce qu'on dit, tiens, c'est tout plat. Peut-être tout plat, mais dès qu'on ouvre un peu les yeux et les oreilles, on se rend compte que ça fourmille, quoi.
Oui, alors moi je dirais ce qui frappe d'abord, et je fais la liaison un peu avec le bocage, c'est que le marais est enchâssé dans le bocage. Et comme les routes sont dans le bocage, on peut quasiment circuler autour du marais sans se rendre compte qu'il y a du marais, parce que on débouche du bocage sur le marais, et souvent c'est une découverte, je dirais, qui est assez brusque. Et puis après, la découverte de la faune et de la flore du marais, moi je trouve qu'elle est quand même pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même il faut prendre son temps, il faut à la limite se poser dans un coin de parcelle le long d'un fossé et puis attendre un petit peu de voir les choses se dégager. C'est pas si facile. Mais bon, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est que le marais ne va pas s'offrir comme ça, comme un milieu littoral où on va voir plein d'oiseaux voler, par exemple. Bon, le marais, ça va demander un peu plus d'apprivoisement.
En fait, on ne peut pas qualifier ces paysages de sages ici. Ça bouge et pourtant c'est plat, mais c'est plein de mystères.
Voilà, exactement. Voilà. Ce ne sont pas des paysages tourmentés, des cassures, des brisures. Ce sont des paysages modérés, oui, mais alors avec beaucoup de mystères, avec beaucoup de magie. Ça n'est pas pour rien que ça a été pendant longtemps ce pays, un pays de sorcellerie. Et encore maintenant, la sorcellerie demeure, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors évidemment, ces paysages qui changent, qui se métamorphosent, qui de paysages terriens deviennent des paysages aquatiques, la brume aussi, la brume.
Merci à Gilles Perrault, donc formidable guide. Et puis, je pense qu'on va y retourner au printemps parce que c'était très intéressant aussi de voir lorsque les eaux partent. Voilà, ça nous fait du bien, je pense à tous aussi, d'aller se promener, d'avoir ces sons d'eau tranquillement, de ces marais donc en plein hiver, dans ces eaux de mon amour sur France Inter. Et comme Cabu, mes charbes aussi, puis sans doute vous, adorait traîner, chantait traîner. Allez, on se l'offre.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui marche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau, sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain, des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud. À l'amour ami que la vie fit ce jour-là, fut un amour poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux, quand une phrase d'extase, c'est beau. Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune, c'est haut. Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée. Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai. J'étais fou peut-être de comprendre cela, mais moi je ne suis qu'un être, oui, d'art. Ah, venez à moi, Apollinaire Rimbaud, avec l'ami de ma joie, Charles Gros. Arc-en-ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux. Mais ce soir, en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça.
Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros. Sortant ma voiture, n'importe quel niveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte aux bougies. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, une atmosphère Louis XIII, du vin chaud. Il y avait Thérèse et de la plopo, une Thérèse à l'aise, c'est beau. Où vas-tu, petite, ton service fini? Moi, je t'invite à venir dans ma nuit. C'est déjà novembre, apporte encore du bon vin. Tout là-bas dans ma chambre, c'est au vin. À l'amour ami que j'ai vécu ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça.
Ne me dites pas que vous n'avez pas fredonné non plus. Ben voilà, donc c'est ça. Donc, traîner, et comme c'est ce mélange à la fois de gaieté et aussi de jazz, et ben ça aussi, Cabu et tous adoraient ces musiques. On va continuer nous aussi à les aimer. On va faire un petit tour maintenant du côté de Mamoudzou. Alors on est à Mayotte, ouais, on est dans notre département français. On est sur un département de 375 km², donc une énorme densité de population, population pauvre, on le sait. Et je vais rejoindre un garçon de 24 ans par téléphone qui s'appelle Alexandre Laubin. Et donc Alexandre s'occupe du groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte, donc une association de protection de l'environnement. Et c'est intéressant de voir comment on fait donc là-bas. Jeune garçon qui a fait un BTS de gestion de la nature et puis il s'est pas mal débrouillé. Donc aujourd'hui, donc, il est à Mayotte. Donc Alexandre Laubin, oui c'est ça, oui, il est là. Donc, bonjour à vous.
Oui, bonjour Denis. C'est une île qui est déjà en fait avec un grand dénivelé. On a un mont qui atteint 660 mètres, hein, le mont Benara. Et on a une île qui a un très grand lagon. Donc en fait, Mayotte est vraiment connue pour son lagon, principalement avec notamment l'observation de nombreux mammifères marins et également donc tortues. Donc ça, peut-être que vous en avez entendu parler. Mmh. Après, c'est une île qui est très morcelée, donc un littoral très morcelé. En fait, une île bien plus petite que La Réunion, mais avec un littoral équivalent.
Alors Alexandre, comment on fait lorsque l'on est donc mahorais, lorsque l'on est habitant de Mayotte, à la fois il y a des expatriés, puis il y a donc les gens aussi qui sont là, pour parler d'écologie et d'environnement, qui n'est sûrement pas la priorité, vu la pauvreté ambiante?
Alors déjà, oui, effectivement, comment on fait? Parce qu'il faut savoir que toutes les modernités, la consommation moderne, elle vient tout juste d'arriver sur Mayotte et donc il faut savoir adapter son comportement. Donc les gens qui avant consommaient avec des matériaux, je dirais, recyclables, et bien aujourd'hui vont consommer avec des matériaux et nombreux déchets et donc par conséquent il va y avoir encore des actions et des gestes d'incivilité. Hein, on retrouve beaucoup de déchets, etc. Après, comment consommer, on va dire, plus durable et comment s'intéresser à l'environnement, bah, notamment la présence des associations, puis un parc marin également, un parc naturel marin avec lequel nous sommes partenaires, donc qui sont là pour sensibiliser.
Alors les actions, on va dire, un peu emblématiques du GEPOMA que vous représentez, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte.
Alors cette association s'est créée suite à la présence d'un oiseau nicheur, le héron crabier blanc, oiseau qui est classé en danger d'extinction sur la liste rouge des oiseaux mondiales. Donc on travaille sur le crabier blanc et également sur l'ensemble des espèces d'oiseaux présentes sur l'île, à savoir 138 espèces recensées en 2014.
Ça veut donc dire que l'on travaille sur ce qu'on appelle l'écosystème, sur le lieu d'habitation. On ne peut pas travailler que sur l'oiseau, mais bien évidemment sur l'ensemble.
Alors effectivement, on travaille sur l'ensemble parce qu'on travaille en partenariat, donc avec de nombreux acteurs de l'île, et notamment le Conservatoire du littoral, le Parc naturel marin ou encore la Brigade Nature. Et on va travailler sur les différents écosystèmes. On va étudier les populations d'oiseaux qui fréquentent ces écosystèmes. Donc on peut parler notamment des mangroves, des vasières et des forêts humides ou forêts sèches qui sont encore présentes sur Mayotte. Donc chaque milieu a ses espèces, on va dire, associés.
Est-ce qu'on arrive à faire le lien pour la population entre préserver des écosystèmes, préserver cette biodiversité, c'est aussi préserver ses chances d'avenir?
Alors c'est vrai que ce soit à Mayotte ou en métropole, c'est toujours difficile de voir le lien direct, mais justement en parlant écosystèmes, hein, tout à l'heure on parlait des mangroves, hein, qui vont avoir un rôle très important pour les oiseaux d'eau hivernant à Mayotte, mais également un rôle très important dans l'épuration des eaux, eh bien, on arrive à faire ce lien.
Alexandre Laubin, juste avant de se quitter, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Mayotte?
Eh bien, Denis, on peut souhaiter à Mayotte une vraie prise de conscience pour son environnement et puis encore de belles découvertes, et que ce soit mythologiques ou découvertes humaines également, avec les rencontres qu'on peut faire autour des oiseaux. Et puis, le regard, par exemple, des enfants, hein, quand on fait des animations, même quand on est en suivi, hein, les enfants viennent directement vers vous, ils connaissent, hein, les noms français ou les noms en chimaoré, ces oiseaux. On a des retours très, très positifs parce qu'on arrive tout de même à avoir des Mahorais dans notre association qui nous suivent à nos sorties.
À très bientôt, merci à vous Alexandre.
À très bientôt Denis.
Alexandre Laubin, donc depuis Mayotte, 01 56 40 40 35, depuis donc votre répondeur 01 56 40 40 35. On va dans Charente-Maritime.
Bonjour, Roland Lopez du collectif Pays Roche-Forte Alerte contre le centre multifilière déchilé. Donc, je vais vous parler de ce projet de centre multifilière de traitement des déchets, donc, qui est une gabegie financière. Ce projet consiste à détruire deux incinérateurs existants sur la région, deux incinérateurs qui ont été remis aux normes en 2006 pour 15 millions d'euros et que nous finirons de payer en 2022, pour construire un incinérateur neuf et un tri mécano-biologique, un TMB, environ pour 100 millions d'euros la construction. Donc c'est un projet qui va être financé par le contribuable au profit d'un exploitant privé. Des déchets, c'est de l'argent, beaucoup d'argent, et Vinci l'a bien compris. Donc c'est un gros projet élaboré en catimini pendant 10 ans par un syndicat créé pour la circonstance d'ailleurs. Pas de consultation du public ni des associations. Donc c'est un projet qui a été découvert en 2013 par une association citoyenne, Pays Roche-Forte Alerte. Ça a généré tout de suite une mobilisation rapide et importante. Au plan technique, c'est un projet surdimensionné qui est devenu aujourd'hui inutile avec l'évolution des politiques de tri et la mise en place de la politique zéro waste demandée par le ministère de l'écologie. De plus, l'incinération et le TMB, c'est deux techniques gourmandes de déchets qui polluent et ne motivent pas au tri. Donc c'est un projet qui est prévu dans une zone humide, protégée. On a un écosystème fragile, les mytiliculteurs et conchiculteurs sont déjà frappés par la pollution. L'insertion paysagère a été ignorée, donc on a un pont transbordeur classé en cours de classement au patrimoine de l'UNESCO. On a un estuaire en cours de classement en projet grand site. Donc tout ça, ça a été négligé. Un collectif de médecins a dénoncé l'atteinte à la santé publique prévisible sur un nouveau cycle de 40 ans d'incinération. Donc les élus, la population qui sont contre ce projet demandent de ne pas commencer le chantier, il n'est pas encore trop tard. Et on demande à mettre en place une politique de tri compatible avec les directives européennes.
Merci Denis, merci à toute l'équipe de CO2 Mon Amour. Un coopérateur, deux coopérateurs, trois. Envie de croissance, une seule ma foi, celle de relations humaines solidaires. Celle d'énergie sans industrie nucléaire, avec ses déchets de haute activité. Bon sang, qu'est-ce qu'on en fait? Et de moyenne activité à vie longue, c'est mauvais pour la santé. On ne peut plus se balader en tongs. Courte vie face à une longue radioactivité, que devient le patrimoine des hommes? On compte pas pour des pommes. Que devient la mémoire de nos enfants? Anéantissement du temps, néant. Culture reflétée par le terroir. Comment peux-tu te voir dans le miroir? Quel sens donner à ta naissance, à ta fin de vie? D'expropriation en expropriation, dans un espace réduit, faut-il toujours accepter de se taire? Devons-nous envisager l'équité sur cette terre? Résister pour que chaque être trouve sa place? Ne meure pas de faim dans une société d'abondance? Accepter et corriger les erreurs politiques? Bifurquer pendant qu'on a encore le choix? Défendre valeur, action, en toute militance? Avancer d'un pas gracieux et énergique? Les coopérateurs lancent d'une même voix, coopérons et construisons un présent respirable, protégeons jusqu'aux plus petites tables. Je suis Charlie.
Des gens qui font. Ben voilà, c'est ça l'auditeur de France Inter et l'auditeur de CO2 Mon Amour. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit déjeuner tout à l'heure en compagnie de Laurent Chevalier, pas n'importe lequel, mais juste avant. Allez, là aussi on se fait plaisir. Ah bah ben oui, vous avez dansé là-dessus. Si, si. Je maintiens, enfin, sauf ceux qui ont 4 ans et demi, mais, et encore.
If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely. Ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. I got two for me. Let me help. It would sure do me good.
Billy Swam sur France Inter. Alors, on va s'intéresser, même si c'est pas l'heure, à notre petit déjeuner. Dans votre bol, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du chocolat, du thé, du café. On va s'intéresser surtout aux céréales avec vous. Donc, Laurent Chevalier, mon petit écosystème à moi. Bonjour, docteur.
Bonjour, Denis.
La question que nous vous posons aujourd'hui, Laurent, c'est : y a-t-il un petit déjeuner idéal ?
Alors, il y a des petits déjeuners idéaux, je dirais un petit peu en fonction des cultures. J'étais très frappé il y a quelques semaines. J'ai eu la chance d'aller à Prague dans un hôtel international où j'étais invité. Et en fait, il y avait énormément de petits déjeuners qui étaient proposés. C'est-à-dire que du côté de la Grèce, de la Turquie, eh bien, ils prennent de la feta, des olives. Donc, ils ne prennent pas forcément du sucré le matin au petit déjeuner. Il y avait le petit déjeuner traditionnel français qui me paraissait pas mal. Et puis, tous les petits déjeuners anglo-saxons. Le petit déjeuner français a une certaine pertinence. D'abord, on a une boisson chaude, on a du pain. Le pain, c'est intéressant puisque c'est un produit que l'on va mâcher. Je crois que ce qu'on peut conseiller aux Français et aux jeunes enfants, c'est de mâcher, de ne pas gober les aliments. On met un petit peu de beurre qui va assurer un petit peu d'énergie. C'est un produit renouvelable par excellence. Et puis, pourquoi pas, un petit peu de confiture. On a des confitures qui sont très intéressantes. On en met en petite quantité. On va juste rajouter un fruit, ce qui ne se faisait pas forcément toujours, et éventuellement un produit laitier type yaourt. Donc, ça me paraît une alimentation équilibrée pour démarrer le petit déjeuner, pour éviter ces espèces de coups de pompe qu'on peut avoir en fin de matinée. Et c'est assez important. Alors, par contre, ce qui est assez inquiétant et ce qui nous préoccupe, nous, un petit peu, les médecins, c'est de voir cet engouement qu'il y a eu pour ces pétales de céréales. Alors déjà, le terme de pétales de céréales est un terme qui est un petit peu limite. Je dirais que c'est une friandise aux céréales, c'est-à-dire que c'est une espèce de pâte dans laquelle on va rajouter eh bien, des fois du sucre en quantité variable, parfois un peu de gras aussi, parfois un petit peu de sel pour faire manger.
Du chocolat.
Du chocolat, en fait, tout un tas de produits. Et on va ensuite le mouler. Et donc, ça va donner cette impression de pétale. Mais en fait, on s'aperçoit de plusieurs choses. D'une part, les enfants, quand ils prennent ça, ils le gobent. Ensuite, en 2002, à peu près, des chercheurs suédois ont mis en évidence l'apparition d'une substance quand on chauffe ces pétales de céréales, quand ils sont fabriqués, qui s'appelle l'acrylamide. L'acrylamide est une substance potentiellement cancérogène. Alors, ce n'est pas parce qu'on prend un produit cancérogène qu'on va avoir un cancer, bien entendu. Mais je veux dire, c'est une substance dont il ne faut pas abuser et qu'on donne aux enfants dès le plus jeune âge avec une certaine facilité. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces pétales de céréales sont un pur produit marketing. Il y a 50 ans, on ne prenait pas ça. Et ça n'a plus rien à voir avec le porridge que vous pouvez prendre les anglo-saxons, qui est un petit peu de céréales écrasées, vous pouvez mettre un petit peu de fruits secs ou des choses comme ça. Donc, j'aurais tendance à dire aux parents qui nous écoutent, de grâce, faites un petit peu attention à ça et faites aussi encore plus attention à ces céréales qui sont fourrées avec parfois des produits qui sont, on peut dire, sur le plan nutritionnel, limite. Alors, on peut avoir, par exemple, un muesli en réserve, c'est-à-dire que c'est des graines un peu écrasées. On va choisir un muesli bio de préférence. Mais il faut tout faire pour que les enfants aient un petit déjeuner suffisamment bien équilibré et surtout qu'ils mâchent. Mâcher, c'est très important, je me permets d'insister, à la fois pour la digestion pour la journée, mais aussi pour le cerveau. Donc, ce petit déjeuner...
Racontez-nous ça pour le cerveau, je ne comprends pas.
Pour le cerveau, puisqu'il va avoir les bons signaux en ce qui concerne la satiété.
Ah,
et donc, pour ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, je crois qu'il faut bien suivre ces recommandations. C'est important pour les enfants, c'est important pour les adultes. Mais il n'y a pas non plus un petit déjeuner universel. Et je me souviens d'une réflexion d'une fois d'une personne allemande qui me disait « Mais vous savez, nous, on aime bien la charcuterie le matin, au petit déjeuner, etc. » Je lui faisais remarquer juste une chose, c'est que si la charcuterie pouvait apparaître comme quelque chose de traditionnel autrefois, c'était des gens qui se dépensaient beaucoup et elle en a bien convenu, c'est-à-dire qu'ils faisaient à peu près l'équivalent de 20 km à pied par jour, ce qu'on ne fait plus du tout.
Oui.
Donc, ayant un petit déjeuner équilibré, et le petit déjeuner traditionnel français est intéressant à ce titre-là.
Donc, si je reclique sur la case de céréales, on va se lire quelques céréales bio, enfin du muesli bio, bon ça on va dire ça passe, mais de faire très attention à tout ce qui est pétale et tout ce qui est marketing derrière.
Je crois qu'il faut être prudent par rapport à ça Et nous sommes préoccupés de voir ces enfants de plus en plus tôt qui prennent ce genre de produits. On a mené une enquête il n'y a pas longtemps dans une école à Paris. Il y avait la moitié des enfants qui prenaient ça. Heureusement, il y avait l'autre moitié qui prenait du pain. D'accord. Et c'est très important.
Ben, on va peut-être rester sur le pain. Merci Laurent Chevalier. Le livre antitoxique, puisque vous nous aidez à nous dépolluer merveilleusement, c'est au livre de poche. Ah ouais, ouais, c'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Lagadan, Benjamin de Lagatinet, donc avec une cloche au cou, qui était à la technique aujourd'hui. Pardon les gars. Jérôme Boulet, donc, était notre assistant. Christophe Imbert a réalisé cette émission. Je n'oublierai pas Albert Houck, Thierry Dupin qui a choisi les disques. Anne Gouzon qui nourrit donc les sites. On se retrouve la semaine prochaine. Il y aura Jean-Marie Pelt dans son jardin. Lorrain, oui. 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35. Vos messages. La Tulu Montilou demain 19h54. Et puis, le Twitter, c'est simplement chez Sous. Vous savez tout. Puis le podcast, vous en avez aussi l'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end de marche, de mobilisation. La librairie francophone avec l'ami Emmanuel Quérade, c'est dans quelques instants.